Radio Galère 88.4 et comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour une heure en Palestine. Aujourd'hui, 6 mars, nous allons regarder un petit peu plus précisément ce qui se passe au niveau du médical dans la bande de Gaza, mais aussi l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Et en dernière partie, nous parlerons de tout ce que les autorités israéliennes génocidaires ont mis en place pour démanteler mettre un terme aux activités de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies, pour le secours et le travail des réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Voilà, tout de suite, nous partons dans le vif de l'actualité avec cette petite remarque en préambule, car si la plupart des télévisions et des radios ont été aux ordres et en compromission avec la propagande israélienne depuis le 7 octobre, pour la presse écrite, nous devons saluer les publications de Mediapart, du Monde diplomatique, d'Orient 21, Politis, L'Humanité et sans doute d'autres, dont notre mensuel local CQFD, dans son édition de février, qui publie un très bel article sur justement le travail des médias et le Moyen-Orient. Depuis le retour des réfugiés occidentaux qui travaillaient dans la bande de Gaza, les témoignages commencent à être diffusés. C'est dans son article du 25 février que Mediapart publie l'entretien avec le médecin urgentiste et infectiologue Pascal André, parti avec Palmed. Tout de suite, nous écoutons cet entretien qui a été capté sur le site de Mediapart.
Ce sont des héros malgré eux, mais ils vont mourir. Ils sont en train de mourir.
We are killed, we are destroyed, our home is destroyed by Israeli siege, by Israeli bombing. We need your support and your assist, please, as quick as possible.
Ils ont participé à ces enregistrements pour que leur voix puisse être écoutée, que leur témoignage soit écouté. L'innommable, l'inhumanité dans le ciel. On sait, on l'entend. On entend une rafale, peut-être d'un combattant du Hamas qui essaie de résister quelque part dans un immeuble. On entend la réponse d'un tank. Et 3 minutes après, les drones autour. 10 minutes après, les avions de chasse et l'immeuble qui explose. 40 minutes après, les ambulances qui reviennent avec beaucoup d'enfants morts. Beaucoup d'enfants morts. Personnellement, j'en ai reçu 5. Il y en a eu 10 une nuit. Des enfants victimes du blast. Ces explosions sont tellement puissantes qu'on était à 3, 4 km, on avait tout qui vibrait chez nous.
There is no place safe in Gaza. Everywhere you walk, there is a danger, a big danger. Shelling everywhere, rockets everywhere, bullets everywhere, blood everywhere, dead bodies everywhere.
J'ai été juste à 2 endroits. Donc j'ai été à l'hôpital européen, qui est un hôpital quand même aujourd'hui assez protégé, puisqu'il y a de l'eau une bonne partie de la journée, même si cette eau aujourd'hui n'est plus potable. Donc quand on n'a plus l'arrivée d'eau par l'aide, c'est embêtant, parce qu'il y a beaucoup de diarrhée, beaucoup d'hépatite A, il n'y a pas de sanitaire. Les sanitaires sont les quelques sanitaires de l'hôpital qui sont complètement débordés. Imaginez 25 000 personnes autour de l'hôpital. Vous sortez de l'hôpital européen, c'est pas la même chose. Vous avez des camps de tentes, de toiles, partout, partout. Vous arrivez à Rafah, c'est vraiment le désespoir. Il y a des gens qui errent partout. Il y a vraiment un sentiment d'insécurité.
The humanitarian situation is very, very critical. It's awful. People don't find any food to eat. No electricity, no good water to drink, no safe place to move. It's very, very difficult to stay alive.
Ce que j'ai vu avant qu'on puisse arriver, c'était des patients en réanimation qui n'étaient pas suffisamment sédatés, qui avaient un tuyau dans la bouche parce qu'ils avaient besoin de ventilation, mais qui avaient les yeux ouverts et qui bougeaient. J'ai interrogé, on m'a dit il n'y a pas assez de médicaments pour tout le monde, on est obligé de réduire les doses. Ce que j'ai vu ces premiers jours au bloc, c'est des patients hurlés, hurlés, parce que le produit anesthésique n'était pas assez dosé et qu'on n'en avait pas assez.
so we cannot give him the sufficient and professional service because we have a lack of equipment, medical supply. Even so, we don't have a sufficient bed for to receive these cases, which has a huge number.
J'ai vu, contrairement à l'hôpital européen, pas contrairement, mais encore plus qu'à l'hôpital européen, des soignants exténués. Parce que déplacés dans des conditions répétées, des bombardements très fréquents, mais en même temps, j'ai vu des gens d'une dignité propre sur eux, alors que rien n'est possible pour laver. J'ai jamais vu des blouses aussi propres. Et après, j'ai vu la néonatologie où j'ai été, et j'ai vu des choses hallucinantes. Jamais que j'aurais imaginé. Comme des enfants déshydratés, des enfants dénutris. On ne nourrit pas les malades. On n'a pas de quoi les nourrir. Quand on trouve une sonde pour la mettre dans le nez, on n'a rien pour mettre dans la sonde. Les familles n'ont rien à apporter. Donc on arrive... J'ai vu des enfants... Des enfants de famine. J'ai vu des enfants, des nouveau-nés avec des infections graves. J'ai vu des couveuses avec 3 à 5 enfants. J'ai vu aussi beaucoup de douceur. Ils ont créé un espace où, comme il n'y a pas assez de couveuses, ils permettent aux femmes de vivre dans cet espace-là. Et toutes les femmes étaient en train de prendre soin de leurs enfants. Et une... Ces enfants, ce sont vos enfants. Ces Palestiniens, ce sont nous. Nous sommes tous pareils.
Vous venez d'entendre le témoignage de Pascal André, urgentiste et infectiologue, parti le 5 février dans la bande de Gaza. Ce témoignage nous est fourni par Mediapart. Pascal André est parti avec l'association PADMED. Il témoigne. Il n'y a pas de savon disponible et pas d'eau non plus pour prendre une douche avant l'intervention. Il y a encore du gel hydroalcoolique, mais il est utilisé pour allumer des feux, pour se chauffer et faire cuire la nourriture. Les gens n'ont plus rien et 3 bouts de bois, ça coûte plus d'un dollar. Les conditions de travail, de vie, il les a immortalisées dans une cinquantaine d'audios, mais aussi en vidéo et en photographie déjà publiées par Mediapart. Les journalistes internationaux ne peuvent pas se rendre sur place. Les journalistes gazaouis qui continuent de faire leur métier sont ciblés. J'en ai reçu 2 à l'hôpital européen, dans un état dramatique qui venait d'être ciblé par des tirs. Pour Pascal André, la couverture médiatique en France n'est pas à la hauteur de ce dont il a été témoin. Il est temps d'ouvrir nos oreilles à d'autres narrations que la narration unique qui nous est proposée. Il faut que l'on se rappelle que nous sommes tous humains. Nous sommes tous les mêmes, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion. À son micro, vous venez de l'entendre, les médecins palestiniens décrivent leurs conditions de travail, leur fatigue après 4 mois à être déplacés du nord vers le sud, à opérer à tour de bras, sans dormir, sans nourriture, sans eau, sans salaire, et à essayer de continuer à prendre soin des autres. Un anesthésiste local m'a dit « Là, j'endors cet homme et en même temps, je me demande ce que je vais faire avec mes 4 filles. Comment je vais les protéger? J'ai déjà perdu ma femme et un fils. » Un petit résumé de ce que vit la population de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, 6 mars, nous avons une partie particulière à la veille, à l'avant-veille du 8 mars, journée de la femme. Nous avons une pensée particulière pour toutes ces femmes au Moyen-Orient, Syrie, Palestine, Liban, Palestine 48, Israël, qui subissent la folie meurtrière de l'occupation, de la colonisation, des guerres civiles. Nous pensons en particulier aux femmes de Gaza aujourd'hui, aux mamans, aux femmes enceintes, 60 000 à peu près, qui voient mourir leurs enfants, qui n'ont plus de lait pour les allaiter, qui font des fausses couches. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement émus et nous donnons tout de suite la parole à Rim Bana, chanteuse. Ya Leil Ma Atwalak.
Leil Ma Atwalak. Mashitni Hafi. هديت لي كتافي دابت حشيشة قلبي لجلكم دابت وشعرتي والشعرتين الشغل يا إما بروسنا دابو فارس يا شمعتي
Merci Rim Bana et vous êtes sur Radio Galère 88.4 à l'écoute de Une heure en Palestine comme chaque semaine. Dans cette deuxième partie, nous allons regarder plus précisément l'utilisation de la famine comme arme de guerre avec tout d'abord une partie sur ce massacre qui avait eu lieu le 29 février. Massacre de la farine. « Un article de Mondo Weiss par le journaliste Tarek Hadjadj en date du 4 mars 2024 sous le titre « Farine trempée dans le sang, les survivants du massacre de la farine racontent leur histoire ». En moins d'une semaine, Israël a commis plusieurs massacres contre les affamés. Dimanche 3 mars, c'est un convoi d'aide qui a vu la mort de 7 personnes après avoir été bombardé. Mais l'incident le plus tristement célèbre a eu lieu le 29 février dans ce qui est devenu le massacre de la farine sur la rue Al-Rachid, près du rond-point d'Aboulsi, à l'ouest de la ville de Gaza. Ce sont plus de 115 personnes affamées qui ce jour-là ont été tuées, tandis que plus de 750 ont été blessées. Faris Elewia, 52 ans, habitant de la région de Shaaf, à l'est de la ville de Gaza, raconte ce qu'il a vu. Alors qu'il a quitté sa maison le matin, à l'aube, deux raisons seulement justifiaient de braver la zone de guerre qui se trouvait au nord de Gaza. La première était l'image de sa famille affamée, composée de 5 enfants, et la seconde était l'espoir de revenir avec un peu de farine. J'ai entendu dire que quiconque se rend dans la région de Naboulsi, à l'ouest de Gaza, peut trouver des camions de secours qui traversent vers le nord. Je n'ai pas hésité, même si je prenais un risque, c'est mieux que de voir ma famille mourir de faim, a-t-il poursuivi. Après avoir marché pendant 3 heures, il atteint le fameux rond-point, Naboulsi, où il a trouvé des foules de gens qui attendaient déjà l'arrivée du convoi. Près du rond-point se trouvait un poste de contrôle israélien gardé par plusieurs véhicules militaires. L'armée avait placé ses points de contrôle aux deux entrées principales de la ville de Gaza, le rond-point de Naboulsi sur la côte et un autre site près du rond-point koweïtien sur la route Salah al-Din. La route désignée de ce convoi passait par la route côtière. Les gens se sont rassemblés à proximité des véhicules étant donné leur proximité du point de rassemblement, a déclaré Elewia. Mais personne ne voulait faire quoi que ce soit aux chars ou aux soldats. Tout le monde là-bas n'avait qu'un seul objectif, trouver de la nourriture pour la famille. Elewia a déclaré que des centaines de personnes ont été poussées à travers des points de contrôle vers le sud en raison du chaos provoqué par les poussées et les bousculades. Soudain, des centaines de personnes sont retrouvées du côté sud du point de contrôle avec tout le monde du côté nord, a-t-il expliqué. Le poste de contrôle a divisé la foule en deux. Lorsque cela s'est produit, les soldats ont empêché ceux qui étaient entrés dans le poste de revenir sur le côté nord, ouvrant le feu sur la foule. Ceux qui ont réussi à regagner le nord ont réussi à le faire en rampant et en se cachant, a poursuivi Elewia. Des observateurs internationaux, y compris des responsables de l'ONU, ont rendu visite aux blessés survivants à l'hôpital Al-Shifa, confirmant que la majorité des blessures et des centaines de blessés étaient dues à des balles réelles. Un autre témoignage, celui de Ahmad Imtaiz, 28 ans, qui vivait avec sa femme et ses 3 enfants dans la région de Zeytoun, mais qui a trouvé refuge dans le quartier Rimal après que les forces terrestres israéliennes aient envahi son quartier. Il était également présent lors de l'incident du rond-point de Naboulsi et a pu rentrer chez lui avec de la nourriture pour sa famille. Quelques camions sont arrivés, dit-il. Un camion transportait des aliments en conserve, un autre transportait du poulet congelé. Les gens se sont précipités dans les camions avant même d'atteindre le point de contrôle israélien, a-t-il raconté. La plupart des personnes autour des camions ont été abattues ou blessées. Ahmad a pu rentrer chez lui avec 4 boîtes de fèves et un seul poulet qu'il avait réussi à attraper. « J'ai attrapé la nourriture et j'ai rampé à travers la terre », explique-t-il. « J'ai rampé pendant très longtemps. J'ai traversé près d'un kilomètre jusqu'à atteindre un endroit plus sûr où je pouvais me relever et courir. » Ahmad n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé si le voyage en valait la peine. « Oui, dit-il. Pour sauver mes enfants affamés, oui. » Nos vies doivent être devenues si insignifiantes, si bon marché, pour que tant de gens meurent de cette façon, a-t-il observé amèrement. Les enfants meurent, les femmes meurent, les familles meurent, tous de faim. Je ne sais pas comment expliquer à mes enfants que nous n'avons pas de nourriture. Je ne sais pas comment les affronter et leur dire qu'ils continueront d'avoir faim. Je préférerais faire face à la mort plutôt que d'avoir à leur dire cela. Et nous continuons toujours avec Mondo Weiss, ce magazine en ligne. Toujours un article sur la famine à Gaza causée par les autorités israéliennes. C'est un article du 4 mars. Au cours des dernières 24 heures, les forces israéliennes ont commis 13 massacres dans diverses zones de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, sur Telegram, tuant au moins 124 personnes et en blessant 210. Le docteur Ashraf Al-Kudra, porte-parole du ministère, a déclaré que les forces israéliennes ont tué 364 personnels de santé et arrêté 269 autres depuis octobre. Les forces d'occupation israéliennes ont détruit 155 établissements de santé et mis hors service 32 hôpitaux et 53 centres de santé, ciblant 126 ambulances et les mettant hors service, a déclaré Al-Kudra. Selon lui, les médecins ont documenté environ 1 million de cas de maladies infectieuses et les capacités médicales nécessaires ne sont pas disponibles pour eux, tandis que la nourriture et l'eau potable dans le nord de Gaza sont extrêmement rares. Save the Children a signalé que les familles palestiniennes à Gaza sont forcées de chercher des restes de nourriture laissés par les rats et de manger des feuilles par désespoir en raison du blocus de l'aide alimentaire à la bande de Gaza. Au cours du week-end, les décès de 16 enfants dus à la malnutrition et à la déshydratation à l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza ont alarmé plusieurs organismes internationaux, dont l'UNICEF. Maintenant, les décès d'enfants que nous craignons sont là et risquent d'augmenter rapidement, à moins que la guerre ne prenne fin et que les obstacles à l'aide humanitaire ne soient immédiatement résolus, a déclaré Adèle Koder, directrice de l'UNICEF au Moyen-Orient. Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a accusé les autorités israéliennes de famille d'ingénierie dans la bande de Gaza. Ils connaissaient le résultat probable de leurs actions, mais ils ont persisté pendant des semaines et des mois, a-t-elle déclaré à propos des actions israéliennes. Et tous les États qui ont réduit le financement de l'UNRWA, vendu des armes et soutenu Israël portent également la responsabilité. L'UNRWA a également décrit la mort de nourrissons et d'enfants palestiniens souffrant de malnutrition comme étant causée par l'homme, prévisible et entièrement évitable. Gaza est devenu l'enfer sur terre. Quand le monde dira-t-il assez ? A-t-il écrit sur la plateforme X. L'UNRWA fonctionne dans des conditions épouvantables et un budget serré après que les États-Unis et leurs alliés occidentaux aient suspendu le financement de l'agence à la fin de janvier, lorsqu'Israël a accusé 12 employés de l'UNRWA d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre. L'UNRWA a licencié le personnel et a ouvert une enquête sur les allégations, mais le financement n'a toujours pas repris. Nous allons maintenant faire une deuxième pause musicale avec une musique de Zarif, Charme, de la musique traditionnelle palestinienne. C'est un album de 2006.
كنت يا نبضة الوادي الوفي يلي القرى في ظلك تقيم عراسها دبكة صبايا وشباب مصفصفي تسحج حول لويح وانا عراسها دبكة صبايا وشباب مصفصفي تسحج حول لويح وانا راسها وسيوف تلمع للعريك مولى في والخيل تعلد لجمها
Radio Galère 88.4, à l'écoute d'une heure en Palestine. Troisième partie de l'émission, nous allons regarder tout ce qui se passe autour de l'UNRWA. En tout cas, nous allons essayer d'être le plus exhaustif possible. Le 13 janvier 2024, sur le site de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, son commissaire général pour la bande de Gaza, écrit « 100 jours de mort, de destruction et de déplacement forcé. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 150 jours. » Cette guerre a affecté plus de 2 millions de personnes, l'intégralité de la population de Gaza. Nombreux sont ceux qui en garderont des séquelles à vie, qu'elles soient physiques ou psychologiques. La grande majorité, enfants y compris, est profondément traumatisée. Les abris de l'UNRWA, surpeuplés et insalubres, sont devenus le foyer de plus de 1,4 million de personnes. Elles manquent de tout, qu'il s'agisse de nourriture, d'hygiène ou d'intimité. Elles subissent des conditions de vie inhumaines, propices à la propagation de maladies, notamment parmi les enfants. Elles survivent à l'intolérable, tandis que la famine arrive à grands pas. La détresse des enfants à Gaza est particulièrement bouleversante. Une génération entière d'enfants est traumatisée, à qui il faudra des années pour se reconstruire. Des milliers ont été tués, blessés et sont devenus orphelins. Des centaines de milliers sont privés d'éducation. Leur futur est compromis et les conséquences en seront profondes et durables. La catastrophe humanitaire à Gaza a été causée par l'homme et aggravée par l'usage d'un langage déshumanisant et l'utilisation de la nourriture, de l'eau et du carburant comme armes de guerre. L'opération humanitaire est rapidement devenue l'une des plus complexes et délicates au monde, principalement en raison des procédures fastidieuses régulant l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza, ainsi que la myriade d'obstacles à la distribution organisée et sécurisée de l'aide, notamment les affrontements en cours. L'aide humanitaire seule ne sera pas suffisante pour contrer la situation de famine imminente. Les marchandises commerciales doivent également être autorisées à entrer dans la bande de Gaza. Le droit international humanitaire, conçu pour protéger les civils et réguler la conduite des hostilités, est régulièrement bafoué. Au cours des trois derniers mois, les civils et les infrastructures civiles, dont les hôpitaux et les abris de l'UNRWA ont été bombardés, tuant des centaines de civils et en blessant des milliers. Les infrastructures de l'UNRWA devraient toujours être protégées et pouvoir offrir aux civils la protection qu'ils recherchent. Elles ne devraient jamais être utilisées à des fins militaires, par quelconque partie au conflit. Le 26 janvier dernier, au moment où à La Haye, Pays-Bas, la Cour internationale de justice, constatant un risque plausible de génocide à Gaza, demandait à l'État israélien de prendre toute mesure pour l'éviter, que Philippe Lazzarini publie un communiqué. Les autorités israéliennes écrites ont fourni à l'UNRWA des informations sur l'implication possible de plusieurs employés de l'UNRWA dans les attaques horribles du 7 octobre en Israël. Pour protéger la capacité de l'agence à délivrer l'aide humanitaire, j'ai pris la décision de mettre un terme à leur contrat et de lancer une enquête afin de rétablir la vérité sans délai. Les salariés sont donc licenciés immédiatement, sans preuve et hors des procédures habituelles. Le 1er mars, pour Mediapart, Mathieu Magnodex et Gwenaëlle Lenoir mènent l'enquête. L'État hébreu accuse l'agence onusienne chargée de l'aide aux réfugiés palestiniens de complicité avec le Hamas. Mais à ce stade, les preuves manquent. En plein chaos à Gaza, l'agence a perdu de nombreux financements. Ces dernières années, Israël a souvent porté le fer contre l'UNRWA, qu'il accuse de longue date de perpétuer le conflit au Proche-Orient en entretenant l'idée d'un droit au retour pour les 6 millions de réfugiés palestiniens, palestiniennes, dont elle s'occupe dans les territoires occupés en Jordanie, en Syrie et au Liban. Un droit de retour inaliénable, affirmé en 1974 par l'Assemblée générale de l'ONU, dont l'agence tire son mandat. Israël a périodiquement accusé le personnel de l'UNRWA de ne pas respecter la neutralité, de laisser le Hamas utiliser les installations de l'ONU, témoigne Lex Takenberg, qui y a passé 30 ans et a dirigé son département éthique. Mais presque tout le temps, Israël n'a pas fourni de preuves. Les attaques contre l'UNRWA ne sont pas récentes, effectivement. Depuis des années, les autorités israéliennes ont pour objectif de mettre un terme à l'existence de cette agence qui emploie environ 30 000 salariés palestiniens, dont 13 000 à Gaza, où elle est le principal employeur. Aujourd'hui, l'UNRWA enregistre 6 millions de réfugiés dans 58 camps. Elle gère 700 écoles et des dizaines de cliniques de soins primaires et de PMI. À Gaza, elle assure même certains services qui relèvent de la gestion municipale dans les camps de réfugiés. À travers les attaques contre l'UNRWA, ce sont bien les réfugiés palestiniens et le droit au retour qui est ciblé. Selon l'ambassade de Tel Aviv à Paris, qui préconise que des mesures concrètes doivent être prises pour la remplacer par d'autres entités internationales ou autres qui ne soient pas entachées de soutien au terrorisme. Car toujours, selon Tel Aviv, elle joue, c'est-à-dire l'UNRWA, joue un rôle clé dans la perpétuation et le renforcement de la question des réfugiés et empêche l'instauration de la paix. Ainsi, en 2017, le gouvernement israélien évoquait déjà sa dissolution et le transfert de ses responsabilités au Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, le HCR. Un an plus tard, alors fidèle allié de Netanyahou, Donald Trump suspendait les versements à l'agence onusienne, accusé alors d'être irrémédiablement biaisé contre Israël. Fin décembre 2023, un rapport classifié du ministère des Affaires étrangères israélien présentait d'ailleurs un plan de démantèlement de l'UNRWA à Gaza en trois étapes, avec comme première étape le fait de révéler la coopération entre l'UNRWA et le Hamas, rappelle France 24. Après le texte du secrétaire général de l'UNRWA, l'émoi est mondial. Immédiatement, les États-Unis, le plus gros contributeur de l'UNRWA, avec 340 millions de dollars, soit plus d'un quart du budget de l'agence, les États-Unis, de Genocide Joe, comme l'appellent les citoyens des États-Unis, annoncent la suspension de leur aide. En cascade, 18 pays, les plus gros financeurs, la plupart occidentaux, gèlent ou reportent leurs contributions. C'est le cas de l'Allemagne, deuxième donateur de l'agence, du Canada, du Japon, des Pays-Bas, de l'Italie, mais aussi de la France qui annonce ne pas faire de versements supplémentaires au premier trimestre 2024. Et n'oublions pas le maire de Marseille, Benoît Payan, qui ne sait plus quoi faire des 80 000 euros que le conseil municipal avait voté pour l'UNRWA et qu'il suspend, puis réattribue, puis verse à d'autres, une gesticulation bien pitoyable et peu digne d'un maire qui prétendait faire de notre ville la capitale de la paix et de la solidarité en Méditerranée. Au total, selon l'UNRWA, 450 millions de dollars de contributions ont été suspendus ou mis en pause. Ce quasi demi-milliard de dollars, au moins, c'est plus du tiers du budget annuel de l'agence, financé à 90% par des dons volontaires des États et seulement à 10% par l'Organisation des Nations Unies. Concrètement, pour l'agence, c'est une catastrophe. Jusqu'à présent, nous avons maintenu nos activités, les écoles, les centres de santé, la distribution de l'aide humanitaire et payé les salaires de nos 30 000 employés, explique à Mediapart de Tamara Al-Rifai, la porte-parole de l'UNRWA. Mais financièrement, nous ne sommes désormais pas en mesure de tenir plus d'un mois, si toutefois les gouvernements qui ont gelé leurs contributions ne reviennent pas sur leurs décisions. Vendredi 1er mars, l'Union européenne a annoncé le versement de quelques 50 millions d'euros, un montant moindre qu'attendu, de quoi toutefois tenir quelques semaines de plus. En pratique, l'agence se dit entravée. Nous ne sommes plus à même d'acheminer l'aide humanitaire dans la zone nord de Gaza, dit-elle. La plupart de nos demandes de permission d'accès sont refusées par les autorités israéliennes. Et dans le sud, l'aide arrive au compte-gouttes. Des procédures administratives, logistiques et des vérifications israéliennes très lourdes ralentissent l'accès. Le manque de sécurité et la détérioration de la situation sur le terrain, mais aussi une montée du désespoir et de la faim parmi les Gazaouis, les poussent de plus en plus à attaquer les convois qui entrent pour se servir directement, sans devoir attendre une distribution organisée. Les derniers hôpitaux s'effondrent, les docteurs amputent les enfants sans anesthésie, la famine est imminente, nous sommes au bord d'un désastre monumental, a averti le secrétaire général de l'UNRWA le 24 février. C'est évidemment le pire contexte, insiste-t-il, pour s'en prendre à son agence, surtout si les preuves de la collusion de certains employés de l'UNRWA avec le Hamas n'ont toujours pas été avancées. Selon le reportage de la chaîne britannique Channel 4, le 5 février, Israël n'apporte pas de preuves pour soutenir son affirmation explosive. Voilà, nous allons maintenant faire une pause musicale avec Nasir Shammah, le maître du oud, et nous reviendrons sur la situation dans la bande de Gaza et en particulier le sort fait à l'UNRWA. Voilà, vous avez pu constater qu'il ne s'agissait pas d'un orchestre traditionnel et du oud de Nasir Shammah. Je rectifie son nom, Nasir Shammah, maître du oud, mais de l'hymne national palestinien Biladi Biladi. Donc, toujours sur Radio Galère, une heure en Palestine. Et nous revenons donc sur ce qui se passe autour de l'UNRWA et de toutes les manipulations qui ont lieu en ce moment. Fin janvier, alors que les annonces de désengagement financier se multipliaient, plusieurs médias reçoivent en résumé des accusations, un rapport de 6 pages en hébreu, que Mediapart aussi s'est procuré. Le dossier contient des noms, des fonctions, le rôle supposé des 12 salariés de l'UNRWA, dont 2 sont morts depuis lors des attaques du Hamas. Environ 190 employés de l'UNRWA seraient des combattants endurcis du Hamas et du djihad islamique, affirme le texte. Et 10% du personnel de l'UNRWA serait affilié aux 2 organisations. Différents médias anglo-saxons évoquent ce document, mais insistent aussi sur le manque de preuves. Ainsi, CNN n'a pas vu les informations issues des renseignements qui étayaient le résumé de ces allégations et ne peut corroborer Les déclarations israéliennes affirment à la chaîne d'information états-unienne dès la fin janvier. Les documents du renseignement israélien avancent plusieurs informations dont Sky News n'a pas vu la preuve renchérir la télévision britannique le 30 janvier. Et nombre de ces affirmations, même si elles sont vraies, n'impliquent pas l'UNRWA directement. Pour Channel 4, le 5 février, Israël n'apporte pas la preuve pour soutenir son affirmation explosive. Dans un podcast, un journaliste du Wall Street Journal, quotidien conservateur propriété du groupe Murdoch, le Wall Street Journal, qui multiplie les éditoriaux hostiles à l'UNRWA, David Lunov, affirme s'être vu remettre des preuves, tenez-vous bien, dans une enveloppe en papier Kraft, par un officier de renseignement israélien dans un café de Tel Aviv. Le Wall Street Journal affirme que ces renseignements ont été collectés par des trackings de téléphones portables, des écoutes, des preuves physiques et des interrogatoires. Retenez bien, des interrogatoires. Le 16 février, le ministre des Affaires étrangères de Tel Aviv, Israël Katz, prend la parole à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité. Lors de sa conférence, se prenant pour Colin Powell et sa fausse fiole de gaz toxique, Katz fait tout de même son petit effet en brandissant un petit document en couleur, le dossier UNRWA. Ce document de quelques 23 pages, consulté par Mediapart, lui aussi, résume les accusations israéliennes. Au moins 13 employés, toujours les mêmes sans doute, dont les noms, photos, dates de naissance et numéros de carte d'identité sont publiés, auraient participé activement aux attaques du 7 octobre et aux prises d'otages. Le ministre de la Défense, Yoav Galan, a même parlé de 30 travailleurs de l'UNRWA impliqués. 1468 employés de l'UNRWA seraient des membres actifs du Hamas et du djihad islamique palestinien, toujours selon la même source. Selon Israël, un des travailleurs de l'UNRWA a été identifié dans des vidéos des attaques du 7 octobre. Autres accusations, un tunnel d'un kilomètre découvert le 9 février sous le siège de l'UNRWA. Rappelez-vous, il y avait déjà des tunnels sous l'hôpital Al-Shifa, sous l'hôpital Al-Quds, à Gaza City, et qui disposerait d'une connexion câblée directe avec le bâtiment des Nations Unies et les installations de l'UNRWA, auraient été utilisés mais récemment et dans le passé par le Hamas pour cacher ou lancer des armes. À chaque fois que nous avons découvert des abus, nous avons alerté les autorités israéliennes et le Hamas, déclare Matthias Schmale, ancien de l'UNRWA à Gaza. Depuis un mois, l'UNRWA multiplie les contre-feux. L'agence a même créé une page spéciale sur son site pour répondre à la désinformation. Par exemple, les salariés qui auraient participé, horrifiant si cela est avéré, selon Philippe Lazzarini, qui rappelle que chaque année, la liste des effectifs de l'UNRWA est envoyée aux autorités israéliennes qui n'ont jamais rien trouvé à y redire. Deuxième point, le nombre de militants ou sympathisants supposés du Hamas en son sein. Des chiffres communiqués à travers des médias ou les réseaux sociaux qui n'ont jamais été communiqués à l'UNRWA ni aux Nations Unies, dit Philippe Lazzarini à Mediapart. Je n'ai absolument aucune idée d'où ils viennent, sur quoi ils sont basés, sur quelles informations, sur quels renseignements, qui sont ces individus. Nous n'en savons rien. Les tunnels, l'UNRWA n'est pas géologue, mais quand elle a trouvé des tunnels, à une ou deux reprises, pas plus que cela, selon Lazzarini, l'agence a informé Israël et protesté auprès du Hamas. À chaque fois que nous avons découvert des abus, nous avons alerté les autorités israéliennes et le Hamas. Confirme par Mediapart Matthias Schmale, ancien directeur des opérations de l'UNRWA à Gaza entre 2017 et 2021. Nous avons découvert deux tunnels sous les écoles lorsque j'étais en poste. Nous avons aussi découvert des armes dans une école inutilisée pendant la guerre de 2014. Nous avons aussi rectifié les choses le plus vite possible. Nous avons fermé les tunnels avec du ciment liquide et nous avons fait dégager les armes de l'école. Mais Israël refuse de donner des détails. Elle détiendrait des preuves tangibles et communicables de ce qu'elle avance ou pas. À ce stade, ces preuves n'ont en tout cas pas été partagées. D'après le Guardian, les enquêteurs de l'ONU n'en ont pas vu la couleur. Que dit donc l'État d'Israël ? Je ne pense pas que nous ayons besoin de donner des détails sur nos sources de renseignement. Cela reviendrait à révéler nos sources et nos opérations, déclarées récemment à France 24, Liord Hayat, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Pour l'instant, je n'ai reçu aucune preuve. Peut-être ces allégations sont vraies, peut-être pas, déclare Joseph Borrell, haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères. Alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken assurait fin janvier que les affirmations d'Israël étaient hautement crédibles, le Conseil national du renseignement américain, qui conseille le gouvernement, a assuré le 21 février les juger crédibles, tout en indiquant ne pas avoir été destinataire des informations du renseignement israélien qui les sous-tendent, ni pouvoir vérifier les affirmations selon lesquelles un grand nombre de travailleurs des Nations Unies ont des liens avec des groupes militants. Un doute renforcé, précise le Guardian, par les préjugés d'Israël envers l'UNRWA. Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères dont le pays a suspendu ses paiements, a convenu elle aussi ne pas être en possession complète des faits. Des allégations sont des allégations, a indiqué le 12 février le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, aux côtés de Philippe Lazzarini. En première année de droit, on vous apprend que celui qui fait des accusations doit les prouver. Ce n'est pas à l'accusé de le faire. Et pour l'instant, je n'ai reçu aucune preuve. Peut-être sont-elles vraies, peut-être pas. Pour Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires étrangères française, l'UNRWA joue un rôle irremplaçable. Catherine Colonna, en effet, a été chargée début février par le secrétaire général de l'ONU d'une mission pour évaluer sa neutralité, la neutralité de l'UNRWA, son rapport, qui sera réalisé avec trois instituts de recherche européens, n'est pas attendu avant fin avril. Un autre, réalisé par le bureau d'audit de l'ONU, doit enquêter sur le fond des allégations israéliennes. Sollicitée par Mediapart, l'ancienne ministre ne dit rien du travail qu'elle mène actuellement. Mais elle tient à rappeler l'importance de l'agence onusienne sur place, alors que ses futures conclusions sont déjà mises en doute par certaines voix très hostiles à l'UNRWA. L'UNRWA, créée en 1941 dans les circonstances que l'on sait, ne serait plus au travail s'il y avait eu une solution politique, déclare Catherine Colonna. Tous les États membres de la communauté internationale, y compris depuis qu'il y a une offensive médiatique contre l'UNRWA, estiment qu'elle joue un rôle irremplaçable. C'est une vérité première partagée par tout le monde. Apparemment, sauf par les dirigeants israéliens, bien décidés de rayer l'UNRWA de l'équation palestinienne. Démanteler l'UNRWA sacrifierait une génération entière d'enfants, insiste son chef, Lazzarini, devant l'Assemblée générale de l'ONU le 4 mars. Sur X, France 24 cite la citation de Philippe Lazzarini. Démanteler l'UNRWA est irréfléchi. En le faisant, nous sacrifierons une génération entière d'enfants, plantant les graines de la haine, du ressentiment et d'un futur conflit. Il estime naïf de penser que la disparition de l'agence pourrait se produire sans menacer la paix et la sécurité mondiale. Selon le site en français de l'agence de presse chinoise, le chef de l'agence onusienne a averti les médias le même jour que le pire est à venir pour elle et ses bénéficiaires. Nous sommes dans une situation où il y a une décision politique d'éliminer l'UNRWA, a-t-il déploré, citant la déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon laquelle il n'y a pas de place pour l'UNRWA à Gaza, et la tentative de bloquer et d'évincer les personnels de l'UNRWA dans le but de démanteler l'organisation. Il a aussi confirmé qu'un rapport de l'UNRWA qui n'a pas encore été publié recenserait les témoignages de personnes libérées des centres de détention israéliens depuis octobre dernier, dont des membres du personnel de l'UNRWA qui ont été traumatisés par leur calvaire. Il y a de très nombreuses formes d'abus et nous avons entendu des histoires de personnes systématiquement humiliées, forcées à se mettre nues et soumises à des violences verbales et psychologiques, a accusé M. Lazzarini, en donnant un aperçu des conclusions du rapport. Cette déclaration est relayée par France 24. À Gaza, l'UNRWA accuse Israël de torture contre des employés arrêtés. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a accusé lundi les autorités israéliennes d'avoir commis des actes de torture contre certains de ses employés dans la bande de Gaza, selon un communiqué transmis à l'agence France-Presse. Certains de nos employés ont rapporté aux équipes de l'UNRWA qu'ils avaient été forcés à faire des aveux sous la torture et les mauvais traitements, alors qu'ils étaient interrogés sur les relations entre l'UNRWA et le Hamas et sur une implication dans l'attaque du 7 octobre contre Israël, a indiqué l'agence onusienne, qu'Israël accuse pour sa part d'employer plus de 450 terroristes à Gaza. Ce matin, France Inter a annoncé que de nombreuses organisations humanitaires internationales indiquent que les autorités israéliennes refusent de renouveler les visas à leurs employés étrangers utilisés tant en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. C'est donc tout le système humanitaire qui est menacé par les autorités israéliennes. Au moment où la Cour internationale de justice a mis en garde contre le risque de génocide, priver la population palestinienne de l'aide humanitaire, ne pas laisser rentrer l'aide, la nourriture, les médicaments, c'est la preuve qu'il y a bien une volonté génocidaire de la part des autorités israéliennes. Nous faisons une petite pause musicale avant de passer à l'agenda.
ليل ما أطولك مشيتني حافي ميزان هديت لي كتافي دابت حشيشة قلبي لجلكم دابت وشعرتي والشعرتين الشغل يا إما بروسنا دابو فارس يا شمعتي
Donc c'était Rin Bana que nous avons déjà entendu en tout début d'émission. Je ne veux pas terminer sans remercier tous ces journalistes et ces médias qui ont fait un très beau boulot pour essayer justement de rétablir une certaine forme de vérité après le déferlement de propagande pro-israélienne qu'il y a eu dans les premiers mois. Et je reviens encore sur ce travail fait par Mediapart qui nous a permis de faire cette émission en remerciant ces journalistes qui ont vraiment fait un vrai travail de journaliste, justement, et pas d'éditorialiste à la solde d'une propagande. Remercier Mediapart, remercier Orient 21, Le Monde Diplomatique, Politis, L'Humanité, L'Humanité Dimanche en particulier, et aussi CQFD pour le travail fait dans son numéro de février dernier. Et passer maintenant à l'agenda, un agenda très riche pour les jours et les semaines à venir. Peut-être avant l'agenda, simplement un mot, puisque je crois qu'on a quelques minutes supplémentaires. Il y a 21 ans, Rachel Khoury était assassinée dans la bande de Gaza, jeune fille, une vingtaine d'années. Elle écrivait « Je veux juste écrire à ma mère pour lui dire que je suis témoin de ce génocide chronique et insidieux et que j'ai vraiment peur et que je remets en question ma croyance fondamentale à la beauté de la nature humaine. Il faut que cela cesse. J'ai toujours vraiment envie de danser autour de Pat Benatar, d'avoir des petits amis et de faire des BD pour mes collègues, mais je veux aussi que cela cesse. Incrédulité, horreur, c'est ce que je ressens, déception. Je suis déçue que ce soit la réalité fondamentale de notre monde et que nous y participions. Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé quand je suis venue au monde. C'est ce que je ne voulais dire quand j'ai regardé Capital Lake et que j'ai dit « C'est le monde vaste et j'y vais. » Je ne voulais pas dire que je venais dans un monde où je pourrais vivre une vie confortable et peut-être sans effort. Participer, exister dans l'ignorance totale de ma participation au génocide. Quand je reviendrai de Palestine, je ferai probablement des cauchemars et je me sentirai constamment coupable de ne pas être là. Mais je peux canaliser ça pour plus de travail. Rachel Khoury a été assassinée par un bulldozer militarisé de l'armée israélienne alors qu'elle tentait de s'opposer à la destruction d'une maison de pêcheurs. C'était en février, le 27 février 2013, pardon. Non, 2003, il y a plus de 20 ans. Et les États-Unis n'ont rien fait pour dénoncer ce crime. Alors l'agenda, eh bien, dimanche 10 mars d'abord et dimanche 17 mars à 14h, manifestation à la Porte d'Aix, comme chaque dimanche depuis le 8 octobre. Lundi 11 mars, à partir de 17h15, rassemblement symbolique devant les bureaux de l'Union européenne, de rue Henri Barbusse, métro Vieux-Port au Colbert, pour dénoncer le silence de l'Union européenne, le non-respect de l'article 2 qui prévoit des sanctions en cas de non-respect du droit international. Vendredi 15 mars, ciné solidaire chez Solidaire au 59 boulevard Longchamp. Vendredi 22 ou samedi 23, la date n'est pas encore certaine, une veillée pour Gaza à la Porte d'Aix. Lundi 25 mars, une conférence dans le cadre de la semaine contre l'apartheid israélien avec une avocate palestinienne qui parlera des multiples discriminations appliquées aux Palestiniens des territoires occupés en 1948, ce qui s'appelle aujourd'hui Israël. Et puis samedi 13 avril, à partir de 14h, conférence sur l'armement avec les interventions de l'Observatoire de l'armement, désarmement et Stop Arming Israël à la Bourse du Travail CGT au boulevard Charles Nedelec. Vous aurez plus de précisions, bien évidemment, dans les semaines à venir. Il est maintenant quasiment l'heure de nous quitter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Radio Galère 88.4 pour une heure en Palestine. Bintishalad.